Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la croissance, les marchés, le produit intérieur brut, faut que ça monte, il en faut plus, toujours plus. Gagner plus d'argent pour être plus heureux, car depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement du dogme communiste, le capitalisme est devenu le modèle en dehors duquel point de salut. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres s'accroissent, notre planète ne peut plus subvenir à notre boulimie de ressources naturelles. Pourtant, de nombreux pays ont soif de développement et les pays dits riches sont au pied du mur. Alors que faire? Comment inventer une nouvelle économie plus distributive et respectueuse de l'environnement? Les recettes existent, encore faut-il pouvoir et savoir les appliquer.
C'est pas du vent sur RFI.
Avec nous dans ce studio, deux invités. Jean-Marie Haripet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Université de Bordeaux et co-signataire du nouveau manifeste des économistes atterrés, 15 chantiers pour une autre économie, qui vient d'être publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et à vos côtés, Stéphane Kerkhoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de Agir pour l'environnement et co-auteur, hein, parce que c'est assez anonyme, hein, c'est co-auteur du petit livre noir des grands projets inutiles, publié aux éditions Le Passager Clandestin, qui est signé Camille. Camille, c'est un collectif, en fait.
C'est un collectif pour éviter de sombrer dans une volonté de tirer la couverture à soi, alors qu'il y a des milliers d'opposants qui agissent localement sans chercher la lumière médiatique.
Voilà, donc ça, c'est une démarche en soi. Alors, Jean-Marie Haribet, qui sont les économistes atterrés?
Les économistes atterrés sont une association qui s'est créée il y a 4 ans maintenant à la suite de la publication d'un premier manifeste dont l'initiative a été prise par une poignée d'économistes que l'on peut dire hétérodoxes, c'est-à-dire qui refusaient le bourrage de crâne quotidien qui était dispensé sur tous les médias et enseigné dans toutes les universités, consistant à nous dire mais ce que vous disiez en introduction, à savoir qu'il n'y avait pas d'autre horizon à court terme, ni à même moyen terme, ni même à l'infini, que le capitalisme. Et donc, en 2007-2008 est survenue une crise mémorable dont nous analysons les causes essentielles comme provenant de la juxtaposition de deux terribles contradictions qui éclatent au même moment, à savoir une contradiction d'origine sociale parce que la fuite en avant de la financiarisation de l'économie mondiale n'a pas réussi durablement à compenser le fait que le monde du travail a été soumis à des conditions de plus en plus draconiennes, à l'austérité, à la restriction des droits sociaux, à la diminution relative des salaires par rapport à l'évolution de la productivité du travail. Donc au bout d'un moment, ça clash et ça a clashé. Donc une contradiction d'origine sociale, la finance n'ayant pas réussi à réaliser son rêve de pallier l'exploitation accrue de la force de travail. Et deuxième source de cette crise, qui vient donc renforcer la première, une crise d'origine écologique, parce que il n'est plus possible d'envisager une croissance économique infinie à l'échelle de l'humanité et pour des temps infinis. Et donc cette double contradiction nous fait dire que les politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre donc à partir de cette crise de 2007-2008 renforcent les causes de la catastrophe. Et donc le premier manifeste que nous avions signé donc en 2010-2011 visait à défaire 10 évidences qui étaient des fausses évidences et nous en étions à cette étape-là à critiquer donc le discours dominant. Et le second manifeste que nous publions ces jours-ci vise à reprendre les points forts de notre analyse, mais en même temps à proposer des axes stratégiques pour inverser le cours des choses.
Voilà, des solutions, on va en parler. Stéphane Kerkhoff, est-ce que vous partagez cet état d'esprit?
Oui, bien sûr, et on le constate au quotidien et localement toujours avec ces grands projets inutiles qui sont contestés, parce qu'ils sont le symptôme d'un manque d'imagination de responsables politiques qui vont aller chercher dans les vieilles recettes des 30 glorieuses des solutions et globalement met en lumière l'absence d'imagination de ces responsables politiques qui, par réflexe, vont aller systématiquement considérer que la nature est une source dans laquelle on peut puiser et qui va globalement accroître le rendement et accroître les retours sur investissement, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'environnement devrait être considéré en tant que tel et non pas comme un vivier dans lequel on puise. Et on constate qu'effectivement, ces responsables politiques font fausse route quand ils vont chercher dans les 30 glorieuses des solutions qui sont juste des voies sans issue.
Oui, vous dites, on est passé des 30 glorieuses...
Aux 50 gaspilleuses.
Aux 50 gaspilleuses, voilà. Mais alors, l'année 2015, ça peut être une année prometteuse, hein, pour enfin sortir de ce que vous appelez les discours écologiques hors sol.
Oui, c'est nous on a constaté ça avec bon ça commence à dater mais à Johannesburg avec Jacques Chirac qui a fait un discours historique, c'était notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Tout le monde garde en mémoire ces phrases très fortes et parallèlement à ça des actes qui étaient à 180 degrés par rapport au discours et on a subi cette accumulation de grands discours écolos avec le Grenelle de l'environnement, avec la conférence environnementale où on a l'impression que nous avons maintenant affaire à une espèce d'écologie hors sol. Où les responsables politiques font assaut de belles formules parce qu'ils ne sont pas capables d'agir sur le réel, tout bonnement, parce qu'ils n'ont pas pris en compte la contrainte environnementale et, une fois encore, utilisent l'environnement comme une boîte dans laquelle on puise. Sauf que ça ne marche plus, ces recettes-là, et on constate que les crises sociales, économiques sont induites, a priori, par les crises écologiques.
Et le problème, c'est que ces discours, du coup, lassent les citoyens.
Il y a un paradoxe, c'est que maintenant, les gouvernants et les responsables politiques de toutes sortes disposent d'études tout à fait officielles qui attestent ce que les hétérodoxes disaient depuis déjà des années, à savoir que il y a un épuisement des gains de productivité qui commence à se manifester à l'échelle mondiale. Donc, toutes les statistiques dont on dispose confirment maintenant que si l'on a une vision de long terme, pas simplement combien il y a eu cette année, combien par rapport à l'an dernier, mais qu'on a une vision sur disons, les 4 ou 5 dernières décennies, si on va plus loin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une tendance à la diminution de la progression de la productivité du travail sur le long terme. Dans des proportions tout à fait impressionnantes, c'est-à-dire que pendant les fameuses 30 glorieuses, on tournait à 4 ou 5% de plus de productivité du travail par an, puis on est passé à 3, puis on est passé à 2, et maintenant, si on espère 1, c'est le bout du monde, entre guillemets. Et le paradoxe, c'est que ça n'alerte pas les responsables comme il le faudrait. Et plus grave encore, vous savez que lorsque l'ONU a adopté le concept de développement soutenable ou durable, il était question de parier sur le progrès technique qui serait susceptible de procurer à l'humanité les ressources de remplacement une fois qu'on aurait trop épuisé les ressources naturelles. Eh bien, on dispose aujourd'hui d'études tout à fait officielles, hein. C'est pas les économistes atterrés qui l'ont inventé. Moi, je les ai mis sur le site, justement, des économistes atterrés, là, dernièrement. On sait calculer, approximativement, bien sûr, mais on sait calculer l'influence du progrès technique comme contribution à la progression de l'activité. Eh bien, on constate sur le demi-siècle la même tendance à la diminution de cette progression. Donc l'influence du progrès technique est en train de diminuer et donc on ne peut plus faire le pari que celui-ci sera susceptible de nous fournir les solutions techniques pour résoudre les questions environnementales du 21e siècle. Et donc cette double diminution des gains de productivité, à la fois du travail et puis ce que l'on doit essentiellement au progrès technique, se raréfient. Ils ne sont pas passés au-dessous de zéro, c'est vrai encore, mais ils avoisinent. On en est entre 1,5 ou 1% de plus par an, ce qui, c'est quasiment l'épaisseur du trait. C'est-à-dire, en termes de statistiques, c'est la marge d'erreur, quoi.
Mais ça, c'est valable dans les pays industrialisés, parce que quand on regarde les croissances des pays émergents ou des pays africains,
vous
par exemple,
raison.
On est sur d'autres données.
Vous avez tout à fait raison. Et pour l'instant, la croissance de la productivité et au final de la production tout court, des pays que l'on appelle émergents, tire la moyenne mondiale encore vers le haut. Mais on dispose déjà de statistiques montrant que la courbe commence à s'inverser. On est toujours
On le voit avec la Chine, par exemple.
Exactement. Exactement. Donc, il est possible que d'ici quelques années et au plus tard quelques décennies, le tirage par le haut de la part des pays émergents se raréfie lui aussi. Et donc, nous ramène à cette condition dont on parlait mon collègue et moi-même tout à l'heure, à savoir qu'il y a une limite à l'utilisation des ressources de la planète.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about ourselves, and it stops right there. I'm lost looking in a sea of faces everywhere. Now where did she go? I need to find her quickly to nurse my insecurity.
I'm lonely amongst these people, and I need to feel love, and I need to feel part of something. Is that strange? And why are they reluctant to talk? And why do they look alone when they walk? I see a face but no names. But despite my confusion, I've come to the conclusion that people need people. It's something I forget, but I've come to accept that people need people. And I'm all right.
Une autre économie qui remet en cause le diktat de la croissance et du profit comme seul horizon est-elle possible? Nous en débattons avec nos invités aujourd'hui dans C'est pas du vent. L'économiste Bernard Maris faisait partie du collectif des économistes atterrés, de ceux qui n'hésitent pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il s'exprimait dans les médias pour contrer le discours ambiant et dans Charlie Hebdo, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'est plus parmi nous.
Aujourd'hui les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui sommes nous moins 0,05, indice où allons-nous 1,5, indice d'où venons-nous 4,0.
La relation marchande a tendance à se substituer à toute autre relation et à absorber tout autre type de relation et à détester. La relation marchande ne supporte pas qu'il y ait des relations qui ne soient pas marchandes. Des relations d'affection, d'amour, d'amitié.
Jouissance des biens matériels 0,8.
Toutes ces relations sont des relations qui sont insupportables pour la relation marchande, qui est une fausse relation d'égalité qui passe par l'argent. Là, il y a une belle phrase de Simmel qui dit, c'est que l'argent, c'est ce qui permet de ne pas regarder les autres dans les yeux. Or, justement, l'humanité est faite pour regarder les autres dans les yeux. Et profondément, nous sommes humains, nous, des animaux qui regardons les autres dans les yeux et qui avons quelque chose à leur dire en les regardant dans les yeux. Et ça, le marché ne supporte pas, parce qu'il faut qu'il y ait dans la relation, qui est une relation, on va dire, d'affection, eh bien, il faudrait la couper par le mur de l'argent, par l'intermédiaire de l'argent.
Indice amour 2,0, abstraction 0,02, enthousiasme 0,8.
Tout le progrès technique va vers l'hyper-narcissisme et l'hyper-individualisation. Et la solitude absolue que provoque ce type de société, qui est une société d'une dureté impitoyable. Le marché est une société extrêmement dure, qui offre beaucoup de jouets aux jeunes gens. On les voit tous pianoter dans le métro, sur leur smartphone, bon, dans leur isolement, dans leur bulle, en train avec des jouets. C'est vraiment un stade infantile, hein, le capitalisme. C'est un stade extrêmement infantile. Ce n'est pas une société mature, la société capitalisme, puisqu'elle surfe sur le besoin infini et qui est renouvelé de façon permanente. Donc c'est vrai que cette marchandisation perpétuelle de tout ce qui peut exister, le fait que, bon, on offre désormais à des enfants des smartphones de plus en plus tôt, l'argent de poche, toutes ces choses-là, qui fait qu'on détruit du lien social, c'est quelque chose de très pernicieux. Et à terme, de très dangereux et de très violent. Porteur d'une grande violence. Et assez suicidaire. Je pense que cette société qui détruit systématiquement l'altruisme, la coopération, la fraternité, cette société est extrêmement suicidaire.
Hein. 0,2, respect 2,45. Solitude 11,1, bleu du ciel moins 0,01, pression atmosphérique, heure de sommeil 7.
Ces propos ont été enregistrés par la production du Centre laïque audiovisuel avec le Centre d'action laïque de Belgique. Jean-Marie Haribet, comment réagissez-vous à cette analyse?
C'est l'occasion de rendre un grand hommage à notre ami, collègue et très proche ami Bernard Maris, qui justement là nous fait sentir que l'économie ne peut pas englober la totalité de la société, contrairement à ce que nous clament les économistes libéraux. Et j'ajouterai aux quelques phrases magnifiques qu'il vient de prononcer, j'ajouterai que non seulement le marché, le capitalisme, ne supporte pas le lien social, comme il l'a dit, mais il ne supporte même pas non plus les relations monétaires qui sont non marchandes. Par exemple, l'éducation publique, par exemple, la recherche publique, par exemple, la santé publique, dont on voit bien que la stratégie est de les grignoter de plus en plus.
Oui, elle trinque partout. Hein.
Parce que même ce n'est pas supporté, alors que les forces économique marchande profite de l'éducation, que tout le monde soit à peu près en bonne santé, et de la culture, etc., etc. Et donc, la double impasse dont nous parlions tout à l'heure, cette double impasse se traduit aujourd'hui par une sorte de fuite en avant. Il s'agit d'élargir constamment la sphère où le capital va pouvoir aller se valoriser. Donc, on privatise la protection sociale, on privatise la distribution de l'eau, on privatise les services culturels, tout l'accès à la santé, etc., etc. Et donc, les pistes que nous ouvrons avec notre nouveau manifeste visent justement à borner cette marche en avant pour redonner une légitimité à tout ce qui est du ressort à la fois du lien social, comme Bernard Maris le disait à l'instant, et en même temps ce qui ressort de l'activité proprement économique, mais dans laquelle le capital n'est pas entré pour valoriser, pour produire de la valeur pour l'actionnaire, puisque vous savez que c'était le mot d'ordre de ces 15 ou 20 ou 30 dernières années. Voilà. Et donc, il faut mettre en place vous demandiez, est-ce qu'il y a une autre économie possible? Oui, tout à fait possible, à condition de reconvertir massivement l'industrie, l'agriculture, les services, et de les faire obéir à un certain nombre de critères d'ordre social et d'ordre écologique simultanément.
Alors on va développer évidemment les solutions plutôt dans la deuxième partie de l'émission, mais Stéphane Kerckhoff, par rapport à cette société dure dont parlait Bernard Maris, c'est vrai qu'il y a quand même, les citoyens s'organisent, on voit de plus en plus de mouvements collaboratifs qui justement échangent des biens au lieu de les acheter, créent des synergies sur Internet, tout ça fait penser que la société est prête, ou en tout cas une partie de la société est prête à changer de modèle.
Oui, elle est prête, elle est même beaucoup plus en avance que les responsables politiques qui ont un peu tendance à courir après les initiatives locales qui sont déjà mises en œuvre par les citoyens. J'entendais Bernard Maris parler de coopération. Ce qui se crée aujourd'hui sur les ZAD, c'est bien plus qu'une contestation d'un projet. C'est l'émergence d'une contre-société qui n'aurait plus besoin d'une publicité ou de la publicité qui stimule perpétuellement le désir et crée en permanence du besoin et assèche toute relation interindividuel, mais pour le coup, on constate que tout ça foisonne localement. Donc, c'est ça qui est assez intéressant et qui nous remplit d'optimisme, c'est qu'on constate que cette crise de la croissance potentiellement peut déboucher par quelque chose qui, globalement, peut être de nature à réhabiliter la limite, la fraternité et l'envie de se parler en se regardant dans les yeux.
Mais en même temps, comme l'écrivait aussi Bernard Maris, c'est bien de remettre l'argent en cause si on est en haut, hein, parce que parmi nos auditeurs, certains doivent se dire que c'est quand même un peu gonflé de remettre en cause la valeur argent quand tant ont du mal à vivre dignement.
C'est pour ça qu'il faut absolument compléter toute la réception que l'on fait des expériences locales qui sont tentées, compléter cela par la remise en cause des logiques globales. C'est-à-dire qu'effectivement, la logique du profit maximal n'est plus supportable pour satisfaire les besoins humains. Et donc, il faut pouvoir retrouver la maîtrise à l'échelle collective, c'est-à-dire à l'échelle d'un État ou d'un groupement d'États comme l'est l'Union européenne, retrouver la maîtrise collective des outils de politique que sont le budget et qu'est la monnaie. Faire en sorte que la monnaie ne soit pas simplement de l'argent qui sert à l'accumulation, mais faire en sorte que la monnaie retrouve son essence première, à savoir sa qualité de lien social, de fournisseur, de véhicule du lien social. Un exemple simple, s'il n'y avait pas la monnaie, on ne pourrait pas construire un système de protection sociale, parce que quand je suis malade, que je vais à l'hôpital, je ne rémunère pas en nature le chirurgien. Il est payé en monnaie via la collecte de cotisations ou de prélèvements de diverses sortes. Et donc, il faut redonner sa plénitude à la monnaie, chose qu'on a perdue avec l'avènement du capitalisme néolibéral et financier. Il faut redonner la plénitude à ce qu'est la monnaie en tant qu'institution sociale. Et tous les travaux anthropologiques et historiques montrent maintenant que la monnaie, c'est pas un truc qui a été inventé pour supprimer le troc qui était mal commode. Non, non, pas du tout. La monnaie est une institution de la société et par laquelle passe toute une partie du lien social. D'ailleurs, toutes les expériences de monnaie locale vous dites complémentaires, qu'est-ce qu'elles redécouvrent? Découvre ce principe essentiel, c'est que la monnaie est une vraie monnaie quand elle sert, bon, à échanger les biens, peut-être, mais quand elle est ce lien social que l'euro, par exemple, n'a jamais eu, hein, cette qualité-là. D'ailleurs, comment il est en crise?
Je pense qu'on a attisé la curiosité des auditeurs avec cette première partie d'émission théorique. Maintenant, on va passer à la pratique et ce sera juste après le flash d'info. À tout de suite.